dans le quartier Boïrabé, j'ai vu un grand camion et on sortait des frigos, on sortait des congélateurs pour les emporter. Ce qui veut dire que le pillage continue encore. Alors, je ne peux pas concevoir qu'en plein jour, que les gens aillent piller et personne au niveau de l'autorité ne puisse agir. Tout le quartier hier s'était vidé parce qu'il y avait une peur bleue comme quoi on allait brûler le quartier. Moi-même, j'ai accompagné des enfants à pied pour les faire traverser la route car tous ces enfants avaient peur, y compris les parents. Des psychoscènes d'angoisse et je me pose des questions. Comment peut-on accepter de traumatiser les plus petits enfants qui sont aujourd'hui et le demain d'un pays, rien qu'avoir des armes et des coups de feu et des véhicules qui roulent à vive allure, tous ces enfants ont peur. Pas de climat de confiance, mais avec qui on va travailler? Ce sont des questions que les nouveaux responsables doivent se poser eux-mêmes. Il est temps de créer ce climat de confiance, il est temps de sécuriser les personnes et nous attendons cela des responsables politiques. Or, actuellement, nous avons l'impression que certains éléments de Séléka, ils ont tout le pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Un moment est venu pour que eux, qui les ont amenés, puissent les discipliner, puissent les caserner, les cantonner et les désarmer, afin que la population puisse vaquer librement à ses occupations.
Mais est-ce que c'est un fait avéré que ce sont les rebelles du Séléka qui ont commis les pillages et des violences?
Ce que je sais, je vois des véhicules en plein jour marqués dessus Séléka et qui s'arrêtent pour piller. Si ce sont de faux Séléka, eh bien maintenant, aux responsables, quand on les appelle, doivent venir les désarmer. Or, pendant 2 heures, 3 heures, ces gens sont là en train de commettre des forfaits. On appelle, personne ne bouge. Ou il y a complicité, ou il y a laisser-faire, ou bien les gens sont débordés.
Ces populations qui ont fui tous ces quartiers, est-ce qu'elles ont de quoi se loger, de quoi se nourrir aujourd'hui?
Justement, de mémoire de centrafricain, je n'ai jamais vécu cela dans ma vie. Il s'agit des gens qui fuient pour se réfugier dans des hôpitaux. L'hôpital communautaire, l'hôpital de l'amitié où je viens juste d'en sortir, cet hôpital accueille 1400 personnes pleines de désolation. Les petits enfants amènent le sol qui n'ont rien à manger. Une maman m'a dit hier, je n'ai mangé qu'une seule mangue toute une journée. Voilà pourquoi, avec les éléments de Caritas et tout, les bénévoles, j'ai convoqué une réunion avec les chrétiens. Pour nous, croire en Dieu, ce n'est pas seulement une théorie, c'est une vie. On doit maintenant rencontrer le Christ à travers nos frères qui se sont déplacés et qui sont dans les hôpitaux et qui errent et qui se posent des questions s'ils sont encore des gens qui pourront s'occuper d'eux. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans les hôpitaux en train de préparer des repas pour offrir à leurs frères et sœurs sans distinction de religion ni de race, ni de région, car tout homme est créé à l'image de Dieu et le message du Christ est un message universel.
J'ai entendu dire que la cathédrale de Bangui que les fidèles avaient été eux-mêmes pillés dimanche. Est-ce qu'on peut parler de tension religieuse aujourd'hui?
Cette tension religieuse, s'il y a des personnes mal intentionnées qui veulent les faire advenir, nous sommes les sentinelles d'aujourd'hui et de demain. Nous essayons de barrer la route à ces gens-là. Cette crise militaro-politique n'est pas religieuse. La République centrafricaine est un pays laïque. Il y a la liberté religieuse. Et chacun a le droit de professer sa foi. Qu'on soit musulman, chrétien catholique, chrétien protestant, on peut professer sa foi ou bien encore d'autres religions. Maintenant, de vouloir imposer ou introduire l'enjeu religieux dans les sphères politiques, nous disons non. Et nous le disons haut et fort. Ceux qui tendent ce genre de pièges ou qui veulent jeter ce genre de peau de banane, nous devons être vigilants pour les écarter, les isoler. Voilà pourquoi nous adressons un message solennel à tous les responsables qui puissent encore prendre leurs responsabilités, dit ouvertement, République centrafricaine, pays laïque, hors de question de poser des actes, des injustices à l'égard des chrétiens, hors de question de prendre les véhicules des pères, des sœurs, hors de question de maltraiter des pères et des sœurs, hors de question de commettre encore des injustices à leur égard. Quand on est responsable de tout le monde. Un président, il est président de toutes les religions, religieuses centrafricaines, sans exception.
Mais est-ce qu'il y a déjà des frères, des sœurs, des religieux, religieuses qui ont été touchés par ces violences?
À l'intérieur du pays, je peux vous en parler, Même à Bangui, nous avons des cas. Je vous donne un exemple. Un père Lazaris, il a été agressé quand il laissait les cassons rentrer de Bangui. Il était blessé à la main, blessé au pied. On l'a soigné. Il y a eu des coups de fusil. Il était obligé de se mettre par terre aussi. On a pillé aussi dans sa maison. Alors, il a été déshabillé pour rester là. Vous voyez, ce sont des actes d'humiliation que nous ne pouvons pas accepter ni tolérer. J'exprime mon indignation devant ce genre de comportement déshumanisant. Nous avons vu aussi des pères au niveau de la paroisse combattant, les télécassons rentrés. Ils ont pris tous les matériels, ils ont essayé de bousculer les pères. Mais les pères sont restés calmes et ça, nous ne pouvons pas accepter. Qu'on vienne toucher à nos responsables. Récemment, au niveau du centre d'accueil, il y a des télécas qui sont venus et ils ont commencé à faire des avances aux sœurs. Et les sœurs ont refusé. Nous avons appelé d'autres éléments des forces armées de l'Afrique centrale, FOMAC, qui sont venues pour les écarter. Ce genre de comportement, nous ne pourrons pas les accepter. Nous espérons que ce genre de comportement sont des comportements isolés et nous les avons condamnés fermement. Et nous ne voulons pas qu'ils puissent se reproduire. Moi aussi, je n'ai pas le droit de proférer des mensonges, proférer des menaces, ni agresser un musulman. Je dois le respecter, car c'est un centrafricain comme moi, c'est un être humain comme moi, et je ne peux pas le considérer comme un animal ou une bête de somme.
Si je vous posais cette question-là, c'est qu'on entend récemment, de plus en plus souvent d'ailleurs, des personnes, religieuses ou laïques, qui vivent en Centrafrique et qui nous disent que les gens du Séléka ne parlent pas le Sango, que ce sont des musulmans et des arabes, et que c'est ça qui leur fait peur, c'est que ce sont des étrangers qui voudraient s'imposer et imposer un islam rigoriste.
Cette peur, j'entends ça de mes agents pastoraux, et je l'ai fait remonter aux responsables de Séléka. Ils me l'ont dit. Séléka, composé de 90% de musulmans, eh bien, ils sont arrivés à Bangui. À eux maintenant de dire clairement leur objectif était politique et non religieux. Et s'ils ne disent rien, ce qu'ils pourraient entendre ou laisser croire qu'ils sont complices ou ils valident. Et je n'ose pas m'aventurer ce chemin de penser qu'ils sont dans cette logique. Nous leur demandons simplement de respecter cela. Parce que ce que les sœurs dominicaines de Nazareth ont vécu, venir avec des armes, tirer pour leur faire peur, pour pouvoir piller toute une maison, jamais on a eu cela. On peut venir piller une maison, mais tirer pour terroriser les gens, ça c'est encore l'autre mode opératoire qu'on vient d'introduire. Et ces gens qui arrivent, qui sont majoritaires, qui parlent arabe, moi j'ai été clair. Je l'ai dit et je le redis, tous ceux qui ont aidé à prendre le pouvoir, il est temps pour que les responsables de ce pays leur demandent ouvertement de quitter, de regagner leur pays et d'être contenus quelque part, de jeter les armes, de laisser les Centrafricains vaquer librement à leurs occupations. Ils ont aussi le droit de vivre libre dans leur pays.
Pour vous, s'il y avait une priorité, c'est le retour à l'ordre ?
C'est la sécurisation, la première priorité, la sécurité des personnes et des biens. Inconsciemment, normalement, le couvre-feu doit commencer à minuit, mais à partir de 17h, 18h, vous n'avez plus beaucoup de gens dans la ville. Ça veut dire que les gens savent qu'il n'y a pas de sécurité, il faut le dire. Dans la journée, les gens hésitent à sortir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité encore. Et nous demandons aux responsables de pouvoir s'impliquer davantage, cantonner, désarmer, éloigner tous les éléments de Séléka qu'ils appellent eux-mêmes incontrôlés, et que les FACA, et que les gendarmes, et que les policiers qui existent bel et bien dans ce pays reprennent leur service. Ceux qui ont vocation à devenir militaires du côté de Séléka, ils auront à passer des tests et regagner l'armée. C'est un peu que se passer de cette manière. Sinon, l'autre manière ne sera pas une manière républicaine. Ce qui est important, c'est cette situation d'errance de nos frères et de nos sœurs qui sont dans la ville et qui ne savent pas où aller. Il est temps que la communauté internationale puisse aussi se pencher sur cette question. Parce que ce que je vous dis, c'est ce que nous voyons à Bangui, l'arrière-pays. C'était aussi des scènes chaotiques, dramatiques que j'avais vécues. Bangui est rentré dans la danse. Toutes les préfectures sont touchées. Aucune préfecture n'est épargnée. Donc il est temps qu'on puisse vraiment, la communauté internationale puisse prendre la question de la justice africaine à bras le corps la vie humaine ici, est-ce qu'elle a du sens? Si elle a du sens, eh bien, il faudrait qu'on s'engage à la défendre. Actuellement, nous avons des gens qui n'ont pas pu aller au champ et bientôt, la saison est finie pour planter. Nous allons avoir des catastrophes bientôt humanitaires au niveau de la famine parce que les gens n'ont pas planté. Ils vont être malgré eux des mendiants. Donc, il va falloir penser tôt ou tard à cette situation-là. Et nous commençons à en parler déjà.